wonder. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un invité qui va nous partager ses ondes positives, son envie d'agir, sa joie de vivre, sa joie d'être là, sans regret, parce que c'est une chanson que nous allons écouter dans quelques instants. Mais, alors là, nous allons nous laisser porter, parce que je ne connais pas plus que ça notre invité. C'est sur les beaux conseils d'une amie qui m'a dit « tu devrais l'inviter dans ton émission ». Madame, mesdemoiselles, messieurs, elle est artiste, elle est maman, elle est profondément humaniste, c'est Gabou.
So good, so good, I got you.
Bonjour Gabou.
Bonjour.
Pardon pour le retard, on a eu peu de temps pour préparer l'émission, mais ça va bien se passer et je tenais à saluer Malika qui nous a mis en relation et qui m'a dit « il faut vraiment que tu reviennes Gabou dans ton émission ». Et ben c'est avec joie que nous allons faire cette rencontre et puis la partager avec nos auditeurs. À ton avis, pourquoi Malika m'a dit « il faut que tu invites Gabou ». Qu'est-ce qu'elle a de... donc positive à partager, parce que Malika elle connaît bien le concept de l'émission, elle sait bien que c'est pour des gens qui ont de l'énergie à partager.
Alors j'ai rencontré Malika chez Dominique Répéco, à Malraux, à la scène nationale de Malraux, et c'était un lieu vraiment d'une très grande ouverture, d'une très grande humanité autour de Dominique Répéco qui... malheureusement nous a quittés. Je pense que Dominique Répéco avait autour de lui des gens absolument passionnés et très humains. Et j'ai pu, pendant des années, avoir des échanges avec Malika sur le théâtre, sur des lectures, sur de la peinture, enfin tout ce qui fédérait à Malraux, la musique, surtout la musique. Donc je pense que c'était une famille dont Malika faisait partie.
Alors, ce monde de l'art, de la culture, en quoi il est une source de vie, une source d'énergie?
Il est source de vie par rapport à son contenu, qui est un contenu, je dirais, d'amour, d'humanité. Et surtout, c'est le seul endroit où on laisse la place à l'autre, réellement.
C'est vrai ça, Gabou? Toi, en tant qu'artiste, en tant qu'intermittente du spectacle, tu vis cette solidarité, cette fraternité tout le temps, entre artistes?
Alors, je pense qu'il y a...
Je m'amuse un petit peu.
Oui, oui. On dit que la culture est la fille de la révolte et de la colère. Mais je pense sincèrement que quand on est sur scène, nous sommes éclairés, mais au fond, on nous éclaire pour mieux éclairer... ceux qui sont dans l'ombre.
C'est très en lien justement avec les trois dates que tu m'as demandé d'évoquer, les trois rendez-vous de l'actualité que tu proposes. C'est pas forcément ton actualité, c'est pour ça que je mets un peu de forme dans mes mots. C'est des rencontres que tu proposes. On peut les évoquer, ces trois prochains rendez-vous, c'est en mai, c'est en septembre, et ça sera un petit peu plus tard, en novembre je crois, pour le Musée des Beaux-Arts. Le premier rendez-vous, c'est au mois de mai, c'est à l'Opéra. Et c'est avec qui, et c'est avec quoi, et c'est pour qui, et c'est pourquoi?
Oui, donc avec l'Opéra National de Lorraine, le directeur Mathieu Dussoulier m'a passé une commande de travailler avec les patients de l'IRR. Donc,
L'Institut Régional de Réadaptation.
Voilà, donc 13 personnes, tous victimes d'accidents ou de naissances, amputées. Et... depuis le mois de septembre, nous travaillons sur leur récit personnel, des souvenirs, leurs accidents, leurs rêves. Et donc, au mois de mai, nous aurons l'honneur de partager avec eux un très beau moment de spectacle où ces personnes seront sur scène.
Tu peux nous en dire un tout petit peu plus de la mise en scène, alors justement ?
Alors oui, alors la mise en scène, elle est à partir d'un écrit, donc c'est du théâtre documentaire, où le directeur a demandé donc à une dramaturge, Chloé, de faire des interviews par rapport à leur histoire, par rapport à leur accident, par rapport à leurs rêves, et d'en faire une pièce. Moi, j'ai à charge de mettre en scène cette pièce. Donc, ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est ce qui n'est pas dit. C'est comme dans la vie, c'est le plus intéressant. Donc, ce qui n'est pas dit, c'est ce qu'on peut tous partager, parce que ce qui n'est pas dit, c'est l'universel, c'est l'intime. C'est sans doute nos plus grandes peurs.
Et pourquoi notre... ça ne se partage pas? Pourquoi on ne met pas des mots émotés? Parce que si on ne met pas des mots, est-ce que ça ne devient pas des mots M-A-U-X?
Alors, effectivement...
Je le dis avec une profonde conviction, c'était une conversation que j'avais et qui est une des raisons de mon arrivée tardive, mais c'était l'objet de ma conversation il y a une heure.
Oui, parce que les mots M-O-T-S mentent. Alors que le corps ne ment pas. Donc, à partir du moment où il y a prise de parole, même si on essaie d'être le plus sincère, il y a des choses qu'on ne peut pas définir soi-même. C'est comme donner la définition de l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on vit tous, chacun à notre façon. Et il est difficile de vraiment décrire cet amour universel, cet amour absolu. Et je pense que la scène, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, sur scène, il y a cette magie entre cette boîte noire, cette lumière qui s'allume, la musique, le silence des spectateurs, tout ce qui n'est pas réellement dit et partagé. C'est ça, c'est le vrai, c'est le fond.
Est-ce que c'est un peu tôt pour avoir le résultat de cette mise en scène qui sera donnée au mois de mai, mais est-ce que tu vois un chemin qui se fait dans cette construction? Est-ce que tu vois un chemin d'humanité qui est emprunté par toutes les personnes, ceux qui vivent à l'IRR, mais ceux qui accompagnent comme toi, comme l'auteur, comme...
Énormément, parce que moi, je me méfie déjà de moi-même, je me méfie aussi de cette casquette d'artiste, je me méfie de toute personne sachant. C'est-à-dire que face à un tel projet, quand vous avez un jeune homme où il n'a plus de jambes, ses deux jambes, qu'est-ce que vous voulez lui apprendre sur son corps en tant que metteur en scène? Qu'est-ce que vous voulez lui apprendre sur comment il doit placer sa respiration sur un texte, etc.
Merci d'aborder ça, parce que c'était un peu tabou justement tout à l'heure. Je n'osais pas aborder la question de cette mise en scène qui peut être dure, parce qu'elle est le fruit d'une souffrance énorme.
Elle est belle parce qu'elle est le fruit d'une résilience, c'est-à-dire comment on vit encore, comment on aime la vie après une telle tragédie. Et c'est là où on apprend énormément d'eux sur la vie. Et nous, on est des simples techniciens. Nous, on connaît la scène, on sait comment se placer dans la lumière, on sait comment attirer le public, comment séduire. Donc, c'est cet échange-là entre eux et toute l'équipe de l'Opéra National de Lorraine. Ce que je peux dire, c'est que depuis le mois de septembre, je vois des gens qui au début étaient un peu timides, au début étaient un petit peu n'osaient pas, et aujourd'hui ils se jettent dans la lumière, ils sont capables de chanter, ils sont capables de regarder droit dans les yeux, et c'est extraordinaire de vivre ça, parce que on a le sentiment réellement que l'art, on dit toujours l'art ne sert à rien, mais on a vraiment ce sentiment qu'à ce moment-là, après des mois et des mois de travail, il y a quelque chose qui naît en eux.
On fera beaucoup de promos pour ce rendez-vous. Il y a une scène, il y a deux scènes, il y a trois dates.
Il y a deux dates.
On les redonnera, t'en fais pas, on les redonnera à un moment venu. Voilà. C'est au mois de mai, c'est à Nancy, ça sera un moment Super fort.
Super fort, vraiment très très fort.
Deuxième rendez-vous que tu voulais proposer, parce que l'émission file à une vitesse pas croyable, tu peux pas savoir, Gabriel, on arrive à 12h58 sans s'en rendre compte. Voilà, voilà. Deuxième date, c'est en septembre, un rendez-vous que tu souhaites donner à partir de, là aussi, d'un texte fort.
Oui, la deuxième date, c'est un hommage à Maryse Condé. J'ai eu l'honneur en 2018 de présenter à l'UNESCO la pièce que j'ai adaptée, Moi, Tituba sorcière noire de Salem. Pour ce travail, la Compagnie Sans Sommeil a reçu le Nobel. Maryse Condé a reçu le prix Nobel alternatif et nous avons reçu de l'UNESCO un prix aussi prestigieux. Je tiens vraiment à cette pièce parce qu'aujourd'hui, Maryse Condé nous a quittés. C'était une femme absolument formidable. Je pense que la femme que je suis aujourd'hui a été traversée, bouleversée par Maryse, par sa personne et par son écriture. J'ai travaillé cette pièce pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai lu ce livre, j'ai fait les adaptations, j'ai échangé avec elle. Donc c'est vraiment un rendez-vous très fort et très très beau avec le public nancéen à la Manufacture pour le mois de septembre.
Troisième rendez-vous, comme ça la boucle sera bouclée.
Voilà, le troisième rendez-vous, c'est un travail porté par la HARS, donc la présidente Valérie Jurin, l'association Sans Sommeil. Donc les présidents sont...
Alors l'ARS, c'est... alors j'oublie le premier A, il vient de changer, mais c'est l'accueil et réinsertion sociale. C'est
pas, tout à fait. Voilà,
c'est pas l'Agence régionale de santé pour pas mélanger. Voilà, qui accueillent les gens en grande précarité.
Très grande précarité, ce sont des SDF. Ils sont logés, enfin ils ne sont plus SDF puisqu'ils sont logés au village d'insertion. Une quinzaine de personnes que nous suivons depuis 2 ans. Et nous avons, oui, 2 ans. Donc une fois par semaine, depuis 2 ans, nous allons les voir et nous avons adapté pour eux un programme, je dirais culturel, qui est fait de théâtre, de lecture, d'écriture, de prise de vue. Nous les avons emmenés à l'Opéra National de Lorraine puisqu'ils n'avaient jamais vu, ils n'étaient jamais rentrés à l'Opéra. Nous avons fait un partenariat aussi avec le Ballet de Lorraine. Ils ont assisté à des répétitions de danse. Nous avons privatisé des restaurants chez Achour, à l'ACA, où régulièrement nous allons manger, nous faisons des petites fêtes comme ça. Et donc tout ce travail qui a été vraiment un travail d'une énorme écoute, qui ont complètement bouleversé nos codes. Moi, je n'ai aucune réalité, je ne connais pas le sans-abri, je me suis jamais retrouvée seule dans la rue. Comment accueillir et faire un projet ensemble. C'est une aventure absolument folle que Valérie Jurin a complètement eu confiance en moi, parce que là, il n'y avait pas d'expérience avant ça. C'est-à-dire que je me suis lancée avec des gens dont je ne connaissais absolument aucune réalité, avec des difficultés de toxicomanie extrêmement importantes. Sur l'estime de soi, travailler absolument l'amour de soi, l'estime de soi. Et là, encore une fois, on apprend ensemble, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible, et au début, c'était un échec parce que je suis arrivée avec des grandes idées en me disant « oui, on va travailler tel texte, etc. etc. » Et j'ai tout mis à la poubelle en me disant « bon, eh bien, d'abord, c'est la rencontre. D'abord, on se rencontre réellement. » Et après, de cette rencontre, va naître quelque chose. Et le résultat est absolument magnifique, qui sera présenté au Musée des Beaux-Arts. Là encore, c'est une autre rencontre avec Susanna, la directrice, qui a tout à fait compris ce projet, qui le soutient. Et elle est venue au village passer une journée avec nous. Elle regarde attentivement et suit attentivement ce projet.
Toutes ces rencontres conduisent à ne jamais avoir de regrets. C'est le choix de ta chanson, c'est Édith Piaf que tu as choisi. Pourquoi ?
Parce que c'est une chanson de l'enfance. Et petite, je l'écoutais déjà à la maison. Et c'est une chanson, je pense que jusqu'à ma mort, je pourrais l'écouter.
Alors, tu as évoqué dans ta vie des personnes importantes qui sont parties. Je voulais dédicacer cette émission à Nicolas Holweck, qui est le directeur général de la SNL, disparu beaucoup trop tôt. On a fait rendez-vous en janvier. Et puis, on a dû reporter l'émission en juin. C'était prévu en juin. Et puis, entre-temps, il est décédé. Et je trouve que je lui dédicace cette émission. Je lui dédicace aussi cette chanson « Non, je ne regrette rien ». Parce qu'effectivement, on n'aura pas fait cette émission, mais on aura vécu de beaux moments car on aura fait, pour être dans ta lignée, une belle rencontre.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les hommes avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix.
Jusqu'au bout. Edith Piaf, non, je ne regrette rien dans I Feel Good.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
La journée commence avec toi, la vie commence avec toi. La vie commence pas avec elle, mais elle est arrivée dans ta vie. C'est une des trois dates importantes dans ta vie, c'est l'arrivée de Lorraine dans ta vie.
Oui, ma fille.
Alors, pourquoi elle fait partie des trois dates importantes dans ta vie?
Déjà, c'est ma fille unique, je n'ai pas d'autres enfants. Et puis, j'ai eu Lorraine assez tard, j'avais déjà 41 ans. Donc, c'est pour une femme, au niveau du calendrier, c'est très tard. Et je ne savais pas si j'allais être une bonne maman. Enfin, il n'y a pas de mauvaise mère, mais c'était très difficile pour moi, au vu de l'enfance malheureuse que j'ai eue, comment ne pas reproduire les traumatismes. Simplement, on ne fait pas un enfant seul. Enfin, du moins, moi, j'ai eu la chance d'élever Lorraine avec le père et qui est toujours à mes côtés. Et ensemble, je pense que nous sommes des parents aimants. On avait suffisamment d'amour en retard pour tout lui donner.
On peut évoquer le retard d'amour?
Oui, bien sûr, on peut évoquer le retard d'amour sans problème.
Est-ce qu'il explique ce retard d'amour, toute la profondeur qu'on a eue dans la première partie de cette émission?
Oui, tout à fait. Le retard d'amour, c'est le père. Je suis née en France, à Paris. Et mon père et ma mère ont divorcé, chose très rare pour des Africains. Ma mère m'a eu à 13 ans et elle est retournée en Côte d'Ivoire un petit peu de force remise au village. Mon père, je suis rentrée avec lui. Et après, mon père est reparti en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai été élevée par une famille italienne. Et j'étais à la DAS, élevée par une famille italienne. Et la petite fille que j'étais avait cet amour pour ce père qui a grandi. C'est-à-dire que c'est un amour absent. Et c'est les plus profonds, les plus... On ne peut pas les dire, on ne peut pas mettre des mots sur cet amour-là. On ne peut pas les vivre non plus. Mais il grandit quand même. Et je pense que tout ça a fait de moi une personne extrêmement sensible par rapport au manque dans la vie. Voilà, c'est-à-dire que toute personne que je vois ou que j'identifie avec un état de manque, je le ressens très fort et je veux apporter tout ce que l'art peut apporter pour dire, décrire, toucher ce manque.
Ça veut dire que l'art est un peu synonyme d'amour ?
Ah oui, je pense que la finalité de l'art est l'humanité, c'est-à-dire que tout film, toute pièce de théâtre, tout livre, etc., ne parle que de ça, c'est-à-dire qu'on parle d'humanité, de nature humaine. Oui, je pense sincèrement. C'est-à-dire que si on regarde, je ne sais pas, Picasso... Guernica, il décrit la guerre, mais c'est quasi une peinture même biblique, dans le sens où c'est la nature de l'homme. C'est d'amour dont il est question, ce manque d'amour.
Allez, on revient à la jeune fille que tu étais, qui a grandi dans une famille d'accueil, qui à un moment est repartie en Côte d'Ivoire.
Oui, je suis repartie en Côte d'Ivoire parce que déjà mon père me réclamait.
Ah oui ?
Oui, il a fait des recherches, il m'a retrouvée, il me réclamait. Et puis je suis repartie en Côte d'Ivoire parce que je voulais absolument connaître mes racines, comme on dit. C'est-à-dire connaître l'Afrique. Je ne connaissais absolument pas l'Afrique, j'étais totalement française, je le suis encore aujourd'hui et je le serai jusqu'à ma mort. De cette France plurielle, on parle de diversité. Qu'est-ce qui est diversité ? C'est que tout simplement, on vient tous d'une mère, d'un père, avec des origines sociales, géographiques différentes. Et moi, c'était l'Afrique. Donc, je suis repartie en Afrique pour retrouver cela, connaître cela.
L'Afrique, qu'est-ce que cela représente pour toi dans la construction de la femme que tu es ?
Le courage. Quand je pense à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, ça me donne énormément de courage, de force, parce que là-bas aussi, il y a des réalités très heureuses et il y a des réalités très, très malheureuses. Et quand je vois, par exemple, aux informations, ou des femmes comme ça, qui sont à des frontières avec des barbelés, qui jettent leurs bébés par-dessus les barbelés pour leur donner une chance dans la vie. Face à ça, je ne peux qu'avoir du courage pour vivre tous les jours. Ça donne du courage, ça donne...
C'est pas l'Afrique que tu as rencontrée, toi ?
Non, ce n'est pas l'Afrique que j'ai rencontrée. L'Afrique que j'ai rencontrée, bah, c'est déjà retrouver une famille. L'Afrique que j'ai rencontrée, c'est aussi devoir m'adapter, puisque c'est une culture que je ne connaissais pas. J'étais une fille, donc savoir qu'est-ce que c'est qu'être une fille en Afrique de 18-19 ans, avec des codes, avec des rituels très très différents. L'Afrique que j'ai rencontrée m'a surtout appris une chose, c'est que si... on n'accepte pas profondément la culture de l'autre, eh bien, on ne peut pas comprendre qui on est. C'est ça que l'Afrique... J'étais française quand je suis arrivée, même si mes parents étaient africains, je ne connaissais pas la culture ivoirienne, bété de surcroît, puisque mes parents sont bété, une ethnie, et je ne pouvais pas me braquer, puisque je ne connaissais pas. Donc il a fallu que j'apprenne les codes et, pour mieux me comprendre.
Pourquoi tu ne pouvais pas te braquer? Tu aurais pu te braquer.
J'aurais pu me braquer, mais vous êtes seul. vous êtes seul.
On a plein de choses à dire, on a encore deux dates à partager. J'ai pas envie de sacrifier, mais on refera une émission. Je suis désolé, Diablo. Deuxième date, tu l'as évoqué, cette deuxième date importante dans ta vie, c'était en 1997. C'est ce qui a donné le fruit de votre amour, Lorraine, votre enfant. C'est la rencontre avec ton mari, Maxime.
Oui. Alors, Maxime, je l'ai rencontré. La première fois que j'ai vu Maxime, c'était sur scène. C'est-à-dire que je revenais de Côte d'Ivoire, une amie devait venir me chercher à la gare et elle m'a dit « Écoute, je peux absolument pas venir te chercher parce que je travaille, mais je vais t'envoyer mon petit copain. » Et son copain était de Materia Prima, Materia Prima qui était donc une compagnie de théâtre de rue, et c'était le grand Tom qui est venu me chercher à la gare et qui m'a dit « Écoute, nous on joue ce soir, apparemment tu aimes le théâtre, viens nous voir ». Donc très bien, ils avaient dressé un chapiteau à la pépinière et je me suis assise et j'ai regardé le spectacle et à un moment donné, il y a un personnage qui est rentré lumineux avec une énergie extraordinaire et je me suis dit « Mais moi, je veux tout savoir de cet homme-là ». Et voilà, et c'est mon mari aujourd'hui.
Et tu as joué pour Materia Prima ?
Non, je n'ai pas joué pour Materia Prima, mais Tom a eu... l'extrême délicatesse d'entendre ma nécessité de création. Et donc, quand nous avons monté la compagnie Sans Sommeil,
la troisième date importante dans ta vie, qui est la compagnie que tu as créée.
Voilà. Il m'a offert une résidence au Totem pour que je puisse monter ma première pièce, qui était une pièce de Marina Tsetayeva. Voilà,
le ciel creux. Je t'ai donc vu sur scène.
Ah, très bien, voilà. Qui était à l'époque, c'était sur... c'est une pièce avec des poèmes, mais surtout c'était sur sa relation à Pasternak et surtout sur les gens du voyage, en fait. Et donc, nous avons monté cette première pièce là-bas.
Aujourd'hui, Gabou, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Lorraine pour qu'elle avance avec sérénité, avec confiance dans la vie?
Ah, c'est difficile. Je crois que ce que j'aurais envie de dire à ma fille, c'est...
Et peut-être un peu plus qu'à ta fille.
Voilà, c'est surtout qu'elle croit toujours en elle, en sa capacité de surmonter toutes les difficultés. Et qu'elle soit toujours tournée vers les autres, sans peur.
Merci.